se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon est à seulement 6,49€.
À ce prix-là, j'invite mes amis à dîner demain soir. Je vais leur faire ma recette de dorade au four.
J'en connais qui vont se régaler comme des rois.
Vous voulez venir ?
Ah bah oui ! Auchan, avec plaisir. 6,49€, le kilo de dorade royale filière Auchan Cultivons le Bon. Élevé en Grèce, pièce de 300 à 600 grammes. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC, les grandes gueules.
Ce sont des médecins qui appellent à la désobéissance. Ils sont plus de 3 500. Si l'aide médicale disparaît, disent-ils, eh bien nous continuerons d'ouvrir la porte de nos cabinets.
Alors, il faut rappeler que pour le moment, l'aide médicale d'urgence, enfin pour les étrangers, l'AME, n'a pas été supprimée. C'est en cours de votation, si j'ose dire. Donc le Sénat a effectivement voté sa suppression, transformant l'AME en aide médicale d'urgence. Mais maintenant, ce sont les députés qui doivent se prononcer. Donc ces professionnels de santé disent, si finalement l'aide médicale d'État disparaît, eh bien, nous avons l'intention de désobéir et de continuer à soigner gratuitement les malades sans papier. Voilà. Alors, il faut préciser que l'AME couvre à 100% les frais de santé des étrangers en situation irrégulière qui sont présents sur le sol français depuis au moins 3 mois. Ses détracteurs estiment que ça génère un appel d'air, que ça coûte très cher, trop cher, actuellement 1,2 milliard d'euros pour 400 000 bénéficiaires, ce qui fait quand même 3 000 euros par an par bénéficiaire. Et c'est vrai que ça peut choquer certains Français qui ont du mal à trouver des médecins, à qui on dit « votre opération, on va la reporter parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel et de place ». Donc l'AME est depuis longtemps dans le collimateur de la droite et du Rassemblement National. Est-ce que vous comprenez ces professionnels de santé qui disent « nous, on est avant tout des médecins, on est là pour soigner ». Alors ils disent gratuitement, ce n'est pas gratuit parce que forcément s'ils soignent, ils seront payés pour cela. Donc là, il y a une petite erreur dans leur façon de présenter les choses. Mais est-ce qu'ils ont raison de manifester leur mécontentement ?
Antoine.
Alors,
vas-y, Elina, t'as démarré tout de suite, ouais. Vas-y.
Alors moi, je suis complètement d'accord avec les médecins. Vous savez, moi évidemment, je suis confrontée à beaucoup de gens qui ont droit à l'AME, mais je voudrais dire aussi que pour avoir l'AME, il faut quand même rentrer sous condition. Les gens, surtout l'extrême droite et la droite dure, j'ai envie de dire même la droite, on va dire, elle est sociale, ils pensent que, le sans-papier, le clandestin, paf, allez hop, AME. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Et moi, je peux vous assurer, quand je vois le nombre de sans-abri qui viennent de pays qui sont complètement mais malades psychiatriquement, heureusement qu'il y a l'AME pour qu'on les soigne dans les hôpitaux psychiatriques, parce que je crois qu'il y aurait vraiment des drames, quoi.
Alors, on va pas soigner tous les fous du monde qui viennent chez nous. Hein.
Non, mais je dis pas ça, mais une fois qu'ils sont sur notre territoire, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'ils prennent une petite fille comme la Lola, ou je sais plus qui ?
Non, je veux qu'ils ne viennent pas.
Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'as la solution ?
On les empêche de venir.
Et comment tu
on
fais ?
On rétablit nos frontières,
etc. Ils se noient dans la mer, on les jette dans la mer. Une fois qu'ils sont sur le bateau, on leur dit hop !
L'AME, précisément, fait partie de ce qui donne envie à des gens de risquer leur vie pour venir
non,
en France.
Mais non, arrête tes conneries.
Bien sûr que si. Je te dis, il y a même des stratégies chez certains clandestins. Quand tu as besoin d'une opération, on te dit il va falloir que tu ailles en France.
Les Anglais viennent en France se soigner, ça gêne personne.
Mais parce qu'ils payent. Là, le sujet de l'AME, c'est que le clandestin, donc présent illégalement sur notre territoire, voit ses soins remboursés à 100%. Quand le Français qui a cotisé, etc., voit ses soins remboursés à 60% ou 70%, je sais plus, sauf s'il est en ALD, etc. Mais tu ne peux pas imaginer qu'un étranger qui ne fait pas partie de notre communauté nationale, qui est venu de manière illégale dans notre pays, soit mieux remboursé qu'un Français qui a travaillé,
attends,
qui a cotisé, etc.
Antoine, tu sais que c'est des personnes, on ne sait même pas s'ils sont vaccinés, on ne sait même pas s'ils ont le sida.
Raison de plus pour qu'ils ne viennent pas.
Eh bien oui, mais
ils
sont là. Donc, attends, moi quand je vais faire...
Elle l'a tapé.
Quand
elle l'a tapé, Antoine,
quand
hier.
Quand
pas de violence dans les grandes
gueules. Non, mais
c'est
une petite tape amicale. Non, mais je vais te dire, moi qui fais tous les soirs quasiment, qui est dans nos rues, mais il y en a qui sont dans une telle saleté, mais t'as presque envie de mettre des gants, un sarcophage pour les toucher, quoi.
Bah, je pense qu'on a...
Un scaphandre, excusez-moi.
Sarcophage,
excusez-moi. Non. Moi, j'ai pas envie d'une nouvelle pandémie ou je sais pas quoi.
Oui, en fait, Rudy, c'est même pour des raisons de santé publique.
Bien sûr.
Antoine, mais cet argument, c'est un argument qui est souvent avancé par les médecins en disant si on peut éviter les épidémies, de faire venir des maladies qu'on n'a plus chez nous mais qui viennent d'ailleurs.
En fait, on adore régler des problèmes qu'on ne devrait pas avoir en France. On ne devrait pas avoir à soigner des clandestins, puisque les clandestins ne devraient pas être là. Et donc, je veux bien qu'on me dise non, mais ils sont là, etc. Non, non, mais moi, mon engagement politique pendant des années.
Ce qui est marrant, c'est que tu ne donnes pas la solution pour pas qu'ils viennent.
Ben, je termine. Mon engagement, il a été de dire pendant des années que pour que la France survive, pour que les Français vivent mieux, on doit traiter le sujet de l'immigration. Et là, vous traitez les causes d'une espèce de laisser-aller où on fait venir. Vous traitez les conséquences, pardon, et pas les causes, du laisser-aller où on laisse venir. Et tu l'as dit, Elina, beaucoup de fous. Oui, il y a une surreprésentation.
Mais évidemment, ils vivent dans des pays en guerre.
Non.
Moi, déjà, je suis traumatisé à mon niveau. Alors, j'imagine, quand tu arrives d'un pays comme la Syrie.
Elina, je termine. Il y a une surreprésentation des troubles psychiques graves.
Psychiatriques, même.
Et psychiatriques, tu as raison, c'est le bon terme. Parmi les étrangers qui arrivent chez nous. Mais comment on peut accepter ça? C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser des fous entrer sur notre sol.
Charles.
Ensuite, juste un mot peut-être sur les médecins là, qui nous jouent, certains médecins qui nous jouent
sera avec
les désobéissants. Mais non, c'est-à-dire que s'ils veulent continuer à soigner gratuitement des gens, il n'y a personne qui va les en empêcher.
Mais avec
en
leur
revanche,
argent.
Ils ne seront pas remboursés. Oui. Et c'est normal que l'argent des Français ne serve plus à payer des soins pour des étrangers présents illégalement sur notre territoire.
Alors Charles Consigny, puis on écoute Jérôme Marty là, dans un instant, notre doc.
Bon, d'abord, les personnes de nationalité étrangère ne viennent pas tous de pays en guerre. On dit souvent ça, c'est un peu une facilité pour nous obliger à tout. Ils ne viennent pas tous de pays en guerre. Ensuite, ils viennent de pays qui feraient bien de se prendre en main eux-mêmes. C'est quand même commode d'avoir la France comme éternelle pourvoyeuse de fonds, d'hôpitaux, de soutien militaire, de tout pour un certain nombre de pays qui laissent prospérer des régimes kleptocrates où des petites élites d'un nombre très très réduit de personnes captent l'essentiel des ressources en laissant leur peuple dans la misère. Et on constate quand même pour beaucoup de pays en Afrique, que ce soit au Maghreb ou en Afrique noire, ça n'évolue pas quand même cette situation. Donc il serait temps aussi que les pays d'émigration se prennent en main parce que la France ne peut pas éternellement éponger la catastrophe humanitaire qui est créée par la situation de ces régimes-là.
D'autant plus quand ils nous crachent dessus, hein, comme l'Algérie.
Ensuite, l'AME, ça concerne quand même 400 000 personnes par an pour 1,2 milliard d'euros. Donc moi, je suis évidemment pour qu'on soigne au maximum tous les gens qu'on peut, ceux qui sont sur le territoire français, qu'on ne laisse pas quelqu'un qui est à la porte d'un hôpital français qui a besoin d'être soigné. Évidemment qu'on ne va pas le laisser à la porte de l'hôpital. Ça ne fait aucun doute. Simplement, il faut avoir en tête qu'on demande beaucoup d'économies à l'hôpital. Moi, je suis d'ailleurs tout à fait opposé à ce qu'on demande des économies aux hôpitaux. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'économies à faire ailleurs dans les dépenses publiques que dans les hôpitaux. Et le coût global que représente la santé en France nous coûte très cher. Ça coûte très, très cher en charge. On ne peut pas indéfiniment se plaindre que les salaires connaissent une différence aussi énorme entre le brut et le net et ne rien vouloir changer.
Oui. Alors, mais Charles, juste un truc. Je voulais juste dire un truc.
Écoute,
Charles,
Jérôme.
Par contre, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Les gens, quand ils viennent en France, ils ne viennent pas pour l'AME. De plus, ils ne savent même pas qu'ils sont malades. On découvre qu'ils ont le sida. On découvre qu'ils ont des hépatites. Comment on appelle ça des pneumonies. Ils ne le savent pas. C'est quand ils tombent par terre que les pompiers arrivent. Et là, on se dit, oh, mais il est très malade.
Alors c'est Jérôme qui est avec nous, Jérôme Marty, notre médecin généraliste de Fronton. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour à tous.
Parce que je rappelle que tu es président de l'Union française pour une médecine libre, d'accord, et tu es solidaire de ces médecins. Tu as signé d'ailleurs
Bien sûr.
Pourquoi?
Tu veux désobéir?
Mais parce que c'est une évidence. D'abord, si vous voulez, ce qu'on dit là, c'est que ni plus ni moins, on continue à faire notre métier. Qu'est-ce que notre métier nous impose? Notre métier nous impose de soigner toutes les personnes qu'il y a sur le territoire français, sans distinction. On a prêté serment pour ça et on se doit de le faire. Donc évidemment que si on nous dit « vous ne pouvez plus les soigner parce qu'il n'y a plus d'AME », on dit dans ces mots « on va continuer quand même ». Je rappelle que quatre parties du serment d'Hippocrate, très vite. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques, mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Tous ces points-là...
Mais t'as pas besoin de l'AME pour ça. Pardon, mais excuse-moi Jérôme, le serment d'Hippocrate, il n'existe pas qu'en France. L'AME, c'est un dispositif très français qui n'existe pas en Allemagne, ni en Belgique, ni en Espagne. Après, tu peux mettre... Attends, je termine. Le Sénat, ils veulent mettre en fait une aide d'urgence. C'est-à-dire, effectivement, soyez les urgences parce qu'on ne va pas laisser les gens mourir devant les hôpitaux. Mais l'AME, ce n'est pas ça, l'AME. Je te termine. L'AME, c'est quand même... ce n'est pas des soins d'urgence. Il y a même de la chirurgie qui se fait réparer les oreilles, recoller les oreilles. On sait très bien
qu'il y a des caricatures.
Attends, je termine. Je termine.
Vous n'avez pas le temps de vous expliquer.
Oui, non, mais tu nous lis le serment d'Hippocrate, c'est très sympathique, mais ce n'est pas le sujet.
C'est la fin de ton intervention, Jérôme. Merci.
Allez-y.
Merci d'avoir été avec nous.
C'est pas la peine.
Que réponds-tu, à ton collègue Juvin qui dit qu'il y a, il y a des passeurs, qu'il y a en quelque sorte un business de l'AME. C'est ça le sujet, c'est pas le serment d'Hippocrate.
Mais je vous l'explique. L'AME, effectivement, c'est 1,2 milliard. Effectivement, et c'est 3 000 euros par ressortissant. Le soin, en gros, en France, par habitant, c'est 4 000 euros par an. Donc 4 000 euros, 3 000 euros, quand tu soignes des gens, c'est le même coût pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Quand Julien parle, il confond l'aide humanitaire et l'AME. L'aide humanitaire étant une partie de l'AME. L'aide humanitaire, c'est quand des gens viennent spécifiquement en France pour se faire soigner. Et il y a effectivement des gens qui viennent pour se faire dialyser, etc., ou qui viennent faire des soins quand leur pays est incapable de porter ces soins. Et il y a des accords avec les pays qui sont souvent non respectés. Et c'est pour ça qu'il y a de la fraude. Et les hôpitaux n'arrivent pas à se faire rembourser. Ça, l'IGAS, le dernier rapport de l'IGAS, le définit autour de 1 million d'euros. Pas plus. C'est-à-dire 1% des 0,5% des dépenses Non, mais si vous pensez avoir la science infuse, etc., à ce moment-là, sortez-moi les éléments de preuve. Moi, je vous donne les éléments de l'IGAS. Bon, l'IGAS dit 7 ans. Donc, ce n'est pas énorme. Il faut le combattre. C'est une évidence. Il faut combattre ça. Mais il ne faut pas confondre aide humanitaire dans laquelle se met ces fraudes aux soins et l'AME. L'AME, effectivement, elle est là. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de prendre les gens avant qu'ils arrivent en urgence, par exemple pour les maladies infectieuses et notamment la tuberculose, arriver à dépister ces gens avant qu'ils plombent tous les gens qu'ils ont à côté. Si tu mets un tuberculeux dans une rame de métro, je te garantis que sur une tuberculose évoluée, il va plomber toute la rame de métro.
Je suis d'accord.
On faisait quoi ? On faisait comment avant 1999 ? Je rappelle que l'AME, avant, ça s'appelait la CMU. Hein. Ça date du 27 juillet 1999. Et l'AME a remplacé la CMU au 1er janvier 2000. On faisait quoi avant, en fait ? On ne soignait pas les étrangers avant 1999 ?
Il y a toujours la CMU. La CMUC, la C2S. Et tu as l'AME à côté pour les gens qui sont sur le territoire français depuis plus de 3 mois, avec un plafond de ressources inférieur à 9 700 euros par an. C'est cela que ça vise. Après, tu as la PUMA, tu as la protection universelle pour les autres. Bon.
Et qu'est-ce qu'on faisait avant ?
On faisait mal, et c'est pour ça qu'on a mis ça en place, parce qu'on s'aperçoit de quoi. Et c'est là où quand Antoine Vierge dit « moi, je ne veux pas qu'ils viennent », mais ça, c'est le boulot des politiques. On peut effectivement raisonner en amont, on peut diminuer l'immigration de notre pays. Mais comprenez que quand quelqu'un est sur le territoire, une fois qu'il y est, on est bien obligé de le soigner. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Mais donc, combien
qu'on le prenne ?
Tu vas le faire gratuitement ?
Mais gratuitement, sachez qu'on le fait tous les jours, on fait des actes gratuits, en ville. Mais à l'hôpital, tu ne peux pas imaginer que l'hôpital, quand tu as quelqu'un, un tuberculeux qui arrive et que tu le mets en soin...
Il n'y a rien qui est gratuit,
ça coûte
très
cher. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc ça va coûter encore plus cher. Pourquoi ?
Ça, c'est vrai.
Parce que le patient en question va arriver dans un état plus dégradé, on le soignera, et donc ça coûtera encore plus cher. Donc c'est une erreur morale. C'est une erreur sur le plan sanitaire et c'est une erreur économique parce que ça coûtera plus cher. Et c'est comme ça que l'Espagne, quand elle l'a retiré, est revenue en fait sur sa décision quelques années plus tard parce qu'elle s'est aperçue de son erreur.
Merci Jérôme d'avoir été avec nous. À bientôt dans la semaine. Jérôme Marty, médecin généraliste.
Antoine.
Bonne journée Jérôme.
Pas vraiment convaincu, non.
C'est Malika qui veut nous livrer son expérience. Elle nous appelle du Nord. Elle nous appelle de Lille.
Une compatriote.
Bonjour Malika.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est votre expérience personnelle que vous vouliez livrer, Malika?
Tout à fait.
On vous écoute, allez-y.
Comme je l'ai dit à votre standardiste, j'ai bénéficié de l'AME en tout début de grossesse, puisque j'étais sans papier à ce moment-là.
Oui.
Grâce à l'AME, j'ai pu accoucher dans des conditions correctes. J'ai eu un suivi de grossesse correct.
Mm-hmm.
Et j'en suis très rapidement sortie une fois que j'ai été régularisée. Donc, moi, j'étais sans papier de 2003 à 2011.
Mmh.
J'ai bénéficié de l'AME en tout début d'année 2010. Et ensuite, à ma régularisation, en 2011, j'ai pu travailler et cotiser, comme tout le monde, à la Sécurité sociale.
Mais sans cette AME, pensez-vous, Malika, que vous seriez restée à la rue et que vous auriez accouché dans la rue ?
Alors, je ne pense pas qu'à l'entrée de l'hôpital, on m'ait refusé l'entrée. Ah, mais je n'aurais pas eu tout le suivi de grossesse qui est obligatoire et qui est essentiel pour la santé du bébé, mais également pour la santé de la mère.
Mais Malika, vous habitez quelle région, c'est Elina ?
Le Nord.
Le Nord, à Lille.
D'accord. Mais parce qu'il y a quand même des structures comme Médecins du Monde, je peux vous assurer que... Même sans argent, ils vous prennent... je ne sais pas où vous habitez exactement.
Ils vous prennent en charge. Ouais.
Encore faut-il les connaître, parce qu'on dit beaucoup que les étrangers viennent en France pour les aides, pour la santé, pour etc. etc. Mais ce n'est pas vrai, moi je ne le savais pas. Moi, de 2003,
mais oui, mais moi je le dis tout le temps, grande gueule, ça. Alors là, je suis d'accord.
De quel pays venez-vous ?
Je viens du Maroc.
Et pourquoi est-ce que vous avez...
Et au Maroc,
Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu.
Pourquoi avez-vous quitté le Maroc ?
Je suis venue ici pour mes études. Et au fur et à mesure des années, je me suis retrouvée isolée et des études sont passées au second plan. Jusqu'à ce que je perde mes papiers, puisque je ne pouvais plus renouveler ma carte de séjour étudiant.
Et le bébé, vous l'avez fait avec un homme ?
Oui. A priori, c'est comme ça que ça marche.
Ouais. Et le papa, il faisait quoi ? Il ne vous a pas aidé ?
Si, le papa m'a aidé, le papa m'a soutenu, mais je n'avais pas envie de l'impliquer, parce que je ne savais pas, à l'époque, je ne savais pas que... J'avais peur qu'il risque quelque chose à l'hébergement d'un sans-papier.
Oh, bon, enfin, il y en a plein qui le font. Hein. Bon. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais vous dire...
Malika, c'est Antoine, je vais intervenir. C'est vraiment pas contre vous, je parle pas de situation personnelle, mais dans votre exemple, on montre que la France est généreuse en accueillant des étudiants, oui, qui ont vocation à repartir vers leur pays d'origine à la fin des études offertes par la France. Vous avez fait le choix de ne pas respecter ce contrat, de vous maintenir sur le territoire. Vous êtes retrouvé donc en situation de clandestinité pendant 8 années, si j'ai bien compris. Vous avez bénéficié de l'aide médicale d'État payée par les Français et vous avez enfin été régularisé. Je pense vraiment que cette situation est l'exemple même de la façon dont on se voit imposer, les Français, une immigration que nous n'avons pas choisie.
Oui, mais là, l'amour a sonné à la porte.
Je termine. Non, mais c'est au-delà de l'enfant. C'est-à-dire que les Français ont accepté de recevoir des étudiants, de leur offrir des études, etc. Mais s'ils ne repartent pas, s'ils s'imposent, s'ils font leur propre décision d'immigration en se maintenant sur le territoire, ben, c'est-à-dire qu'on n'a plus de politique d'immigration. Les Français ne choisissent plus. Et je pense que l'AME fait partie de toutes ces pompes aspirantes qui permettent de se maintenir, etc. Si vous n'aviez pas eu l'AME, vous auriez peut-être fait le choix de rentrer vers le Maroc pour retrouver votre famille et élever votre enfant là-bas.
Vous seriez rentré au Maroc ?
Non.
Vous seriez resté quand même en France ?
Oui.
Effectivement, il n'y avait pas de suivi et il faut un suivi quand on est enceinte.
Et pourquoi vous n'auriez pas voulu rentrer au Maroc ?
Alors ça, c'est pour une raison après de mentalité. Je pense que le Maroc n'est pas un pays qui me... J'ai beau être marocaine, hein, mais ce n'est pas un pays qui me convient. Je me sens plus à l'aise ici.
Vous êtes mieux ici.
Plutôt que... Voilà.
Alors, mais si tout le monde se dit ça, ces pays ne se transforment jamais.
Je voudrais donner une information complémentaire à ce monsieur à lunettes, je ne sais plus comment
Antoine,
il s'appelle.
Antoine Dias.
Voilà,
Antoine.
Merci. De 2003 à 2008, quand j'étais sans papier, j'ai toujours travaillé. Les personnes pour lesquelles j'ai travaillé étaient ravies et très heureuses
d'avoir
un sans-papier.
Comment on peut travailler quand on n'a pas de papier ?
Allez demander ça à mes employeurs, monsieur.
Quel type d'emploi, justement, dans Malika ?
J'ai été serveuse, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans les bars, j'ai fait des métiers... c'est pas
physique.
Le sujet, mais...
Arrête.
Pardon ?
Physique, des métiers physiques.
Oui, c'est toute l'ambiguïté, Antoine, tu vois.
C'est pas
mais le problème, c'est que comme aujourd'hui, on a besoin d'une main-d'œuvre qu'on ne trouve pas pour X raisons. Donc, Malika, et puis il fallait qu'elle mange, vive Malika. Donc, c'est elle a trouvé un boulot, elle a trouvé des employeurs. Et ensuite, elle s'installe en France, elle fait sa vie en France. On voit bien que les choses ne sont pas aussi simples, c'est pas aussi binaire, en fait.
Mais tu ne peux pas soutenir le travail noir, en fait.
C'est-à-dire que c'est pas juste soutien, mais factuellement,
il existe. C'est ce travail au black. Malika, vous étiez probablement mal payé. C'est ce travail au black qui fait peser sur les salaires des Français une pression à la baisse. C'est tout ça qui finalement a un coût bien plus grand qu'on imagine.
Vous étiez mal payé, Malika ?
Non.
Bah, en tout cas, vous n'étiez pas déclaré. Donc c'est sans Malika, charme pour l'employeur.
Malika,
on écoute Malika.
Quand j'étais étudiante, alors vous connaissez certainement le fonctionnement comment on fait pour avoir un salarié étranger. Un étudiant n'a pas le droit de dépasser un certain nombre d'heures. Quand j'étais étudiante et que j'avais encore ma carte de séjour, l'employeur, il en avait strictement rien à faire que je dépasse ou pas. Moi, ça m'arrangeait. On s'arrangeait entre nous une fois que les horaires les horaires légaux étaient atteints. Et le reste, on s'arrangeait entre nous.
Ils payaient en liquide les heures sup.
C'est ça.
C'est illégal.
Quand j'ai commencé, oui, c'est illégal, mais je ne suis pas responsable. C'est lui
qui a fait. C'est la vie aussi. C'est un peu la vraie vie.
En fait, on peut toujours trouver des bonnes excuses pour enfreindre la loi. Et à la fin, c'est le BINS.
Les employeurs aussi, mon cher, enfreignent la loi.
Oui, c'est ça. Malika a raison.
La faute sur Malika.
Ils sont deux à enfreindre les doigts à ce moment-là. Oui,
mais donc, est-ce qu'on peut, dans notre pays, enfin décider de réappliquer nos lois pour que les choses soient d'aplomb, soient carrées, parce qu'on a l'impression que c'est des petites infractions, etc.
Et à la fin, mais c'est ça aussi qui fait tourner une activité.
Mais non.
C'est très bien.
Allez-y, Malika.
Excusez-moi, une dernière information concernant le travail. J'ai été régularisée grâce à la circulaire Valls. Donc, circulaire Valls, je pense qu'elle a peut-être été modifiée depuis, mais la circulaire demandait 24 fiches de paye consécutives dans la même société. J'ai été employée par une société qui m'a fait croire que j'étais déclarée, donc je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils avaient juste une pièce d'identité et mon numéro de sécurité sociale que j'avais quand j'étais étudiante. On a eu plusieurs contrôles, et lors l'un des contrôles, la personne s'est aperçue que je n'étais pas déclarée, en fait. Donc tout ce qu'il y avait sur ma fiche de paie qui était retiré en charge patronale, en charge salariale, c'était resté dans la poche du patron.
Vous en doutez,
c'était quoi, c'est un restaurateur ?
C'est un restaurateur, tout à fait.
Vous avez fait croire que vous étiez déclaré, en fait non. Donc il a récupéré l'argent pour lui.
Alors j'avais les fiches de paye, j'avais mon contrat de travail, sauf qu'il n'a jamais fait la liaison entre moi et la Sécu, moi et les impôts.
Vous avez présenté quel document d'identité ?
Une pièce d'identité.
Votre passeport.
Donc, tout à fait.
Il n'ignorait pas que vous étiez étrangère, il n'ignorait pas que vous étiez en situation de clandestinité. Et donc, vous-même, vous ne pouviez pas ignorer qu'il ne pouvait pas vous déclarer des charges puisque vous étiez en situation de clandestinité.
Mais qui est le patron ? Qui est le responsable ? Moi, je ne suis pas censé dire à mon patron.
Vous
ne
pouvez pas découvrir après qu'il n'a pas payé vos charges puisqu'il ne pouvait pas le faire de toute façon.
Malika, je vais vous défendre. En fait, allez-y. Antoine, qui arrête pas de parler d'immigration, il connaît même pas son sujet, je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais tu te trompes. Tu peux être sans papier et avoir des vraies fiches de paye. Ça, je peux te l'assurer.
Alors, c'est ça qui est incongru.
Et d'ailleurs, s'il y a des sans-papiers qui nous écoutent et qui ont des fiches de paye, qui nous appellent.
Malika, je vous remercie d'avoir été avec nous, de ce témoignage en toute franchise, Malika. Merci d'avoir été dans les GG.
En fait, quand ils ont une fiche de paye, ils ont souvent une pièce d'identité d'un frère qui, lui, est en situation régulière, etc. C'est comme ça que ça marche.
Écoute-moi, dans le centre d'hébergement j'interviens via la région Île-de-France, c'est des femmes qui sont femmes de ménage, enfin qui font plein de trucs. Elles ont des vraies fiches de paye. Alors, elles travaillent régulièrement, mais je les ai vues, c'est des vraies fiches de paye.
Alors, David veut témoigner. David des Hauts-de-Seine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec les médecins ? On a entendu Jérôme Marty avec ce qu'ils veulent faire, désobéir et pas appliquer à ce moment-là, et continuer d'appliquer l'AME, dites-moi.
Alors déjà, le terme désobéir, dans la loi, elle leur interdit pas de soigner. Donc, en soignant les gens gratuitement, ils ne vont pas désobéir. Deuxièmement, je suis très content d'attendre que M. Marty, avec le serment d'Hippocrate, je vais pouvoir aller dans son cabinet demain sans rien payer, puisqu'il va me soigner comme il soigne n'importe qui, apparemment. Et ce qui est étonnant, c'est que ce même médecin, enfin, de son association, demande de passer La
consultation à 50 euros.
À 50 euros qui va priver
pas tout de suite, à terme.
Oui. Oui, oui.
À terme, mais qui va priver à peu près 80% de la population d'aller chez le médecin à 50 euros.
Non, parce que c'est remboursé. C'est remboursé. Et la plupart des Français ont des mutuelles.
Non, c'est remboursé. On est bien d'accord. Donc lui, là, ça ne le dérange pas d'être payé. Et il veut que. Et pourquoi il sait? Parce que ça va être remboursé. Mais quand c'est les autres, pourquoi il accepte?
Bah là, de toute façon, s'ils désobéissent, si a priori, ils ne seront pas remboursés, les médecins. Ils seront en faute par rapport au système.
Bah, oui, et si moi j'y vais, et je vous le dis, vous allez voir après, ce n'est pas du racisme ni rien, je suis avec une étrangère, je suis marié avec une étrangère sans papier. À l'origine, pas de souci. La seule chose, c'est que moi, si je vais demain voir mon médecin et je dis je voudrais être soigné gratuitement, moi, en tant que Français, il me dira non. Je n'aurai pas d'AME pour me dire c'est gratuit. Et je ne peux pas demander à la Sécu de me rembourser, ils vont me dire vous avez payé? Ben non.
Voilà. David, vous dites, oui. Je suis marié avec une étrangère sans papier, c'est
oui,
ça?
Oui, alors voilà, alors qui était sans papier, qui est aujourd'hui avec des papiers, qui est régularisée, mais qui a bien sûr vécu un certain temps en
Donc elle a bénéficié de l'AME, alors?
Elle a bénéficié de l'AME.
Et c'était pas et une bonne chose?
Et je confirme que les soins médicaux, apparemment, on a régularisé sa situation d'un point de vue de l'administration, et on est rentré dans la légalité, il n'y a aucun problème, on paye tout plein pot. Et la mutuelle et tout ce qu'on veut, elle a tout perdu. Et bon nombre de ses compatriotes, je vous donnerai pas la nationalité, bon nombre de ses compatriotes ne se régularisent pas parce qu'ils vont tout perdre au niveau du travail.
Ah non, là, je suis pas d'accord, monsieur.
Non, mais écoutez, madame, madame, je comprends ce que vous connaissez un peu. Moi, je connais ça depuis 20 ans. Avec mais une moi... population, 20 ans, des gens qui vivent dans la clandestinité en
non,
France.
Non, mais j'entends ce que vous dites, monsieur.
J'ai vécu avec ces gens-là, je suis marié avec une personne comme ça, et j'ai connu le système de l'AME. Donc,
David, votre épouse est toujours sans papier?
Monsieur, j'entends complètement ce que vous dites, mais alors là, je peux vous assurer, si vous saviez le nombre de gens qui rêvent d'être régularisés, je ne peux pas croire qu'ils restent clandestins pour l'AME.
Madame, j'ai connu les préfectures à 3h du matin pour faire la queue, tout ça, j'ai connu. Moi, j'ai connu tout ça. La différence, c'est que je vois la population qui le fait. Et la population que vous faites, c'est massivement des gens qui ont des facilités de naturalisation. Mais les autres, moi je vous le dis, à part ceux qui sont mariés à un Français pour des raisons, voilà, et les gens qui ont des postes importants, le reste, ils ne le font pas. Ils n'y vont pas parce qu'ils vont tout perdre. L'école, quand ils ont des enfants, l'école, les activités sportives, l'AME, bien sûr, et tout ça, même au niveau du travail, s'ils se déclarent, ils perdent tout parce que le patron dit maintenant j'ai des charges, donc ton salaire il baisse. Là, ils sont payés en cash. Donc en fait, si vous voulez, le système est fait pour inciter les gens à ne pas. Moi, j'ai des gens que je connais depuis plus de 10 ans.
En même temps, ils se retrouvent chez les marchands de sommeil. Hein. C'est
ah non, 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 non. Ils ont des... Non, non. Moi, je vous le dis, je parle d'amis.
D'accord.
Ce sont des amis à moi. Quand je vais chez eux, moi...
Pouvez nous donner les noms, s'il vous plaît. Les noms et les adresses, s'il vous plaît.
Non, non. Moi, j'ai un pauvre appartement ici. Je n'ai jamais pu m'acheter une maison.
Donc, vous dites qu'il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire que certains préfèrent rester dans un statut de...
Je vous dis une chose.
Non officiel.
C'est comme ça. Ils cumulent. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts, bien sûr. Ils ne payent aucun frais scolaire ni rien, aucun truc. Ils ne payent pas le médical. Ils sont payés en cash directement. Donc le patron est content, je suis d'accord, et eux aussi. Et à la fin.
Après, ils ne cotisent pas pour leur retraite, par exemple.
Non, c'est encore nous qui paierons au moment de la retraite en minimum vieillesse. Rassure-toi, on paiera toute notre vie.
Il y a une retraite minimum à 800 euros. Je connais quelqu'un qui l'a. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a une chose tout bête. Quand il faut aller acheter la maison. Et machin. Mais c'est pas là, vous voyez, je suis pas jaloux parce que je suis marié avec quelqu'un d'étranger. Donc on va pas me dire, je suis du RN.
Vous débrouillez avec elle.
Et la personne, il arrive avec sa banque, il dit je veux cette maison, il la paye cash 200 000.
Parce que mais monsieur, faut pas être jaloux, vous savez.
Non, non,
vous inquiétez pas, c'est eux qui vont se retrouver dans la merde, un de ces quatre.
Non, ils sont pas dans la merde. Ils sont pas dans la merde.
On va payer leur
retraite. Ils ont une maison.
Madame, je vis avec eux, ce sont mes amis.
Il dit que c'est pas jaloux. C'est une question de justice sociale.
C'est la réalité. Ces personnes-là, ce sont mes amis.
Ils voient simplement les paradoxes et les dysfonctionnements du système.
De toute façon, dans tous les généraux, il y a de la triche.
Si vous régularisez, vous allez perdre. L'école, vous avez commencé à payer la cantine alors qu'ils ne la payaient pas. Les activités sportives, culturelles, les passes gratuites, tout ça qu'il y a dans le 92 partout, vous les perdez. Donc pour les enfants, c'est l'horreur. Donc on reste comme ça. Le patron va dire maintenant j'ai les taxes, donc maintenant c'est fini ton 2000, tu passes à 1500. Et tout ça. Et par contre, quand il va acheter la maison, la banque ne se pose pas comment le gars arrive avec ce sont des ouvriers, hein, je parle d'ouvriers de base, et qui arrivent avec 200 000 euros cash sur leur compte, la banque ne se pose pas d'où vient l'argent. Le principe, c'est qu'on peut faire le truc bancaire, ils vont prendre. Voilà. C'est comme ça. Mais moi, je suis content pour mes amis. Hein. Je suis très content. Et
ah bah, ils ont leur maison.
Mais je, c'est pas la
mais comme ça, vous allez dans leur maison.
Merci
c'est
David,
bien.
Merci de ce témoignage. Non, merci
la
David.
Elle est là.
Merci David de ce témoignage. Merci, merci. D'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Alors, ces médecins qui appellent à la désobéissance en ce qui concerne, si davantage hein, l'AME est supprimée, qu'est-ce que vous en dites pour ou contre? On va regarder. Contre. 71% contre ce mouvement.
Ah, ça fait plaisir.
Bah non, contre
ce mouvement des
contre
médecins.
Les médecins.
Ah d'accord.
Ils sont contre le fait que les médecins désobéissent.
Contre les étrangers.
Oui, c'est, hein, voilà, moi, faut me parler comme ça.
C'est simple. Hein.
Faut me parler comme ça.
RMC, les grandes gueules.